Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Isabelle avec vous pour les deux prochaines heures. On va vous demander si vous avez hâte d'aller jouer dans la terre en deuxième heure d'émission. On aura l'horticulteur Albert Mondor qui va être avec nous, va nous donner des conseils pour bien partir la saison. Saison qui est partie sur les chapeaux de roue. On a tellement eu du beau temps vite. Puis là, le beau temps, il y a eu comme un petit sursaut de fraîche, à tel point qu'on a connu au cours des derniers jours des températures vraiment, vraiment inquiétantes pour tout ce qui s'appelle vert, parce que c'est vrai, si vous avez des arbres pas loin de chez vous, vous avez pu voir, on dirait que les bourgeons ont décidé de se mettre sur pause un petit peu, pas sûr de ce qui allait les attendre. Mais là, le soleil nous est revenu aujourd'hui et les températures ne vont que s'emmiuter. Alors, on est content de tout ça, puis c'est vrai, même qu'on ait un tout petit bout de terre, qu'on ait juste un pot ou deux sur son balcon, on a tous envie d'aller se mettre les mains dedans. Alors, ça sera un sujet tout à l'heure. Je sais que vous aimez parler de ça, on va en parler ensemble. Évidemment, autre sujet important, une autre statistique qui est assez inquiétante, un homme sur cinq serait en grande détresse psychologique à Montréal. Puis ça, il faut en parler. Vous savez que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup parce que tout est lié. Hein. Quand on parle de violence domestique, de violence conjugale, bien sûr, c'est relié aussi à la grande détresse de nos hommes. Il faut s'en occuper. On aura l'occasion de vous... Ben, je vous demandais, vous, comment ça va, messieurs qui nous écoutez aussi. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Mais en première heure, je commence tout de suite parce que à vous proposer ce sujet de discussion sur la langue, il faut parler de la langue. Le gouvernement Legault va annoncer demain, par le biais de son ministre Simon Jolin-Barrette, dont c'était la mission, il va nous présenter sa réforme de la loi 101. Et là, déjà, il y a beaucoup de choses quand même qui ont coulé ce matin. Là, on a quand même pas mal une bonne idée de ce qui risque d'être annoncé demain, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir certaines dérogations pour l'affichage en français. Très hâte de voir ça. Les admissions dans les cégeps anglophones, probablement contingentées pour les anglophones. Il y aurait un nouveau poste de commissaire à la langue. Il y aurait peut-être un nouveau ministère du français, de la langue française, quelque chose du genre. On sait que le gouvernement du Québec a l'intention d'ailleurs de communiquer uniquement en français avec les entreprises. On a vu aussi que dans les villes où il y a moins d'anglos qu'il y en avait, ces villes-là perdraient probablement leur statut de ville bilingue. Bref, on a ratissé large et c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Trouvez-vous que le gouvernement Legault va trop loin? J'ai envie de rappeler que pour tous ceux qui sont surpris, qui se demandent, mais voyons, pourquoi ils s'attaquent à cet enjeu-là de la langue au Québec? Bien, c'était dans leur plateforme électorale. François Legault, quand même, a déjà été au Parti québécois. On s'en souvient? Oui, on s'en souvient. Est-ce qu'on a de la mémoire? Oui, on s'en souvient. Et même comme chef de la CAQ, il nous a souvent expliqué qu'il était toujours resté ce fier nationaliste convaincu du fait français. Donc, il faut se souvenir de ça, pas trop être surpris ce matin. Puis je pense que c'est pas mauvais, là, tu sais, c'est une bonne idée, je pense. Vous me direz comment vous voyez ça, mais qu'on rappelle le caractère francophone du Québec, c'est vrai, cette société distincte qui nous distingue du reste du Canada. Faut quand même être fier de ça. Alors la grande question que je vous pose, puis c'est assez général parce que je veux vraiment vous entendre là-dessus. C'est sûr qu'au cours des prochains jours, ça va occuper le devant de l'actualité, je vous le garantis. Mais êtes-vous d'accord, vous, pour qu'on renforce le caractère francophone du Québec ou devenir une province bilingue, là, comme c'est en train de se passer, ça fait bien votre affaire parce qu'on est rendu là. C'est un peu ça, finalement, les deux positions. Dans la grande région de Montréal, vous pouvez me joindre en faisant le 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Je vous propose de discuter tout de suite avec Gilles Laporte. Il est historien, ex-président du Mouvement national des Québécois. Il a déjà été le patriote de l'année. Bonjour, Gilles.
Bonjour Isabelle. Je tiens d'abord à te remercier là, pour ces magnifiques années de radio que tu nous as procurées. J'avoue avoir été très ému par l'annonce de ton départ.
Oh, merci beaucoup.
Tout le bonheur, puis on a hâte de t'entendre, peut-être sur une autre antenne, mais on veut surtout pas que tu perdes contact avec nous.
Ah, c'est fin de me le dire comme ça. Merci beaucoup, Gilles. Merci bien. J'en profite pour remercier tous les gens qui continuent de m'écrire. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Sur le caractère francophone du Québec, il y a un bel exemple cette semaine. Je peux pas m'empêcher de ramener ça parce que c'est très frais. Et encore hier, François Legault a eu l'occasion d'en parler, d'en discuter. Puis c'est bien sûr le fait que pour la première fois depuis l'histoire, apparemment, il n'y a pas eu de joueurs francophones sur l'alignement du Canadien. L'absence de Québécois dans la formation de cette équipe qui est notre équipe, le CH, on l'a tous tatoué sur le cœur. Et là, François Legault qui appelle à un peu plus de sensibilité de la part de la direction. J'aimerais ça qu'on l'écoute d'ailleurs là-dessus, Gilles, avant de t'entendre.
Il y en a qui sont très bons. Dans le dernier repêchage, il y aurait pu y avoir un effort additionnel de fait. Geoff Molson puis Marc Bergevin doivent être sensibles au fait que les Québécois aiment ça, voir des Québécois. Peut-être qu'un jour, si on a une Nordique, il y aura une compétition pour savoir celui qui a le plus de joueurs québécois.
Effectivement, Gilles, tu sais, ça se rend au bureau du premier ministre, puis le premier ministre qui interpelle la direction d'une équipe. Certains vont rappeler le fait que c'est une équipe qui joue dans le privé. Hein, c'est une compagnie privée, le Canadien de Montréal. Mais n'empêche que tu peux pas être patron du Canadien et faire abstraction du fait français. Comment tu vois ça? C'est un exemple pour toi de ce glissement là qu'on voit hein, dans les statistiques depuis plusieurs années.
Très révélateur de comment il faut agir à propos de la langue. On a un magnifique exemple d'une entreprise privée, c'est-à-dire qui est d'abord au service des lois du marché, de l'offre et de la demande, de la loi du profit, et qui satisfait des besoins de sa clientèle. Or, elle a jugé, elle, que le fait français, la présence de francophones, n'est pas une priorité dans son approche de marché. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on entend là, dans les premiers échos de la loi qui va être déposée demain, c'est bel et bien qu'on va impliquer l'entreprise privée, indirectement aussi le Canadien de Montréal, qui devra aussi être mis à contribution afin de renforcer le visage français du Québec. Ça ne veut pas dire nécessairement des lois très contraignantes, mais clairement, on a avec l'exemple du Canadien cette semaine, c'est pas un hasard que la lutte pour le français au Québec passe aussi par l'engagement de l'entreprise privée.
Ouais. En même temps, bon... Le dire, c'est une chose, le faire, c'en est une autre, hein, Gilles?
Il y a toutes sortes de moyens qui ne sont pas nécessairement contraignants afin d'assurer le visage français des entreprises, là. Et les premiers échos sont positifs, comme par exemple, là, le règlement à propos de la connaissance de l'anglais lors de l'embauche. J'ai donné des cours en francisation et en intégration à la communauté québécoise auprès des néo-québécois. Et je tiens à vous dire que dans pratiquement toutes les rencontres, on a fait ressortir que les employeurs, même si le besoin ne s'en faisait pas sentir, imposaient la connaissance de l'anglais à l'embauche. Pour les immigrants, ça apparaît comme une muraille de Chine à franchir et ils ne voient dès lors pas pourquoi ne pas passer immédiatement à l'anglais ensemble. Ce genre de règlement-là devrait être appliqué. Aux Canadiens, on peut appliquer aussi un certain nombre de règles, de consignes, sans que ça soit que des vœux pieux ou des petites ironies lors des points de presse, mais que les entreprises soient invitées, d'abord et avant tout, à respecter le visage français. Mais on convient, vous et moi, Isabelle, que ça va d'abord passer par l'engagement de la communauté. Il faut que la clientèle qui écoute les matchs de hockey aussi fasse sentir son désir de voir aligner dans l'équipe du Canadien un certain nombre de gens qui partagent sa langue et sa culture.
Il faudra arrêter de tomber sur le dos des joueurs francophones quand on en a. Ça passe par là aussi. Les pauvres, écoute.
C'est une équipe et représente une ville, représente une communauté. Dans le cas du Canadien de Montréal, elle représente carrément une nation. Les gens qui souhaitent avoir une équipe qui fait les séries, soit, mais il faut certainement pas que ça soit vu comme antinomique avec le fait qu'elle aussi affiche un caractère français. Ouais. Et ça, il y a une lassitude. Et malheureusement, les gens doivent comprendre que c'est aussi au client, là, au guichet, lors de l'achat des produits dérivés ou de l'achat des matchs de hockey, que les gens doivent saisir que c'est à eux d'affirmer leur désir de voir des Français, des francophones dans l'alignement du Canadien.
Écoute, je m'en veux cette semaine, j'étais dans un commerce, puis j'arrive à la caisse, puis on me dit « English, French », comme si c'était un buffet au choix, tu sais, puis c'est... Puis il y avait du monde à la queue. Je me suis dit, je vais pas commencer à repartir la chicane là, sur le bonjour hi, mais comment ça, English, French, là, dans quelle langue veux-tu que je te parle? Tu sais, c'est en français. J'ai répondu, ben en français, s'il vous plaît. Puis j'avais l'air d'un panneau slogan du Québec, mais je trouve ça
nécessaire. Ouais. Faisons un peu d'histoire. Lorsqu'il y a eu la première loi 101 en 1977, il faut rappeler que c'était des années, voire des décennies auparavant, qu'il y avait de la frustration chez les francophones, que ça a été une colère contenue qui a pu s'exprimer, là, qui a pu enfin prendre voir le jour par la loi 101. Mais jamais une loi, puis Jolin Barrette pourrait être le premier à le reconnaître, jamais une loi ne peut sortir strictement du gouvernement. Il faut qu'elle soit aussi l'expression d'un mécontentement populaire que les que la population dans son ensemble exprime en somme sa lassitude à propos du piètre état du français dans la sphère publique. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement peut dire « Nous allons satisfaire un vœu de l'opinion publique. » Et il faut que l'opinion publique soit derrière. On va le voir demain, d'ailleurs. Parce que Jolin Barrette, là, tout le monde parle aujourd'hui d'une certaine unanimité dans l'opposition. Ah oui, on s'en reparlera demain. Là. On va sans doute, les libéraux vont dire que ça va trop loin, que le PQ va dire que ça va pas assez loin, que QS va surfer entre les deux. Mais il demeure que, sans doute, le gouvernement va se retrouver seul au Parlement à défendre son projet de loi. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on va voir si la population suit ou non.
Ben voilà, l'opinion publique va-t-elle suivre, effectivement. Avec nous, Christian Dufour, c'est vraiment un de ses grands sujets. À Christian, qui a eu l'occasion d'écrire plusieurs ouvrages sur la question du français. Il est politologue, bien sûr. Bon, un habitué de notre émission. Bonjour, Christian.
Bonjour, Isabelle.
On ne pouvait pas parler de ça sans te parler, Christian. Comment tu vois ce renforcement du caractère francophone du Québec? Bon, évidemment, on aura tous les détails demain lorsque le ministre Simon-Jolin Barrette va présenter sa réforme de la loi 101. 45 ans presque l'année prochaine, hein? Ça fera 45 ans. 45 ans presque plus tard, est-ce que tu t'attends à ce qu'on rétablisse, qu'on renforce le caractère francophone du Québec?
Ça semble clairement ce qui est voulu. On va voir les détails demain, parce que des fois, le diable est dans le détail, mais on peut prétendre qu'il y a une opportunité vraiment historique pour faire quelque chose de fort. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui disaient « Bon, ça va être la montagne qui accouche d'une souris, puis le gouvernement Legault n'est pas très courageux, on parle. » Mais ce qui coule un peu là dans les journaux, on verra les détails demain, mais on voit que c'est quand même quelque chose de majeur. Ils veulent vraiment, ça n'a pas l'air d'être cosmétique, là, ça a l'air de vouloir agir dans beaucoup de domaines. Comme votre invité tout à l'heure le dit, dans un premier temps, il y a un consensus très fort au Québec à l'effet qu'il faut faire quelque chose pour le français de fort. Mais ça, c'est un consensus général, en partie théorique. Mais vous savez comment c'est. Quand le gouvernement va arriver avec son projet de loi concret, il y a bien du monde qui vont dire « Ah oui, on pensait pas que ça aurait telle ou telle conséquence, c'est compliqué, c'est dangereux, notre image. » Mais il reste que je trouve que le gouvernement semble au moins vouloir réussir quelque chose, un projet qui n'est pas insignifiant, qui est majeur.
Qui est plus que symbolique, d'après toi, Christian?
Ah oui, ça semble assez clair que c'est plus que symbolique. Puis il va y avoir des débats, puis au fil de l'arrivée, ce ne sera peut-être pas ce qu'on a déposé au point de départ. C'est un débat important, puis j'ai l'impression que le débat va se faire à l'automne. Nous, on dépose le projet de loi, on rend public, en tout cas, les intentions du gouvernement, on met la table. Ouais. Mais moi, je trouve qu'on est fatigué un peu de la pandémie, entre vous, Isabelle. Là. Donc, se lancer là-dedans tout de suite, là, mettons, d'ici juin, je trouve ça peut-être un peu vite. Donc,
j'ai hâte de voir, mais en même temps, sais-tu quoi? Moi, j'aime ça parler de la langue, puis ça me change la COVID, tu comprends? J'espère que là, les gens vont embarquer aussi.
Moi,
parce que là, je
que vous, Isabelle, ça doit être mon âge qui me trahit.
Mais tu sais, je me dis, bon, ça nous fait donc parler d'autre chose, puis c'est pas méchant. D'ailleurs, vous me permettrez, messieurs, vous restez avec nous. Gilles Laporte, Christian Dufour sont là. On les garde. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus, cher public. Est-ce que vous allez être derrière la réforme Jolin Barrette de la loi 101? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on renforce le caractère francophone du Québec? Ça, c'est un côté de la clôture. Puis l'autre côté de la clôture, c'est de dire, mais non, regarde, on est, après tout, là, pourquoi on y tient tant que ça, ce côté distinct? Le bilinguisme, c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui. Tout le monde doit parler anglais. Les jeunes, d'ailleurs, on va le voir, on vous donnera des chiffres tout à l'heure sur les jeunes, pour qui l'anglais, ça fait partie de leur vie. Fait que eux, là, moi, j'étais avec mes filles cette semaine quand je me suis fait dire « English or French, which language? » Puis moi, ça me fait sauter, moins elles, vous comprenez, parce que sont jeunes, puis ils ont été élevés là-dedans, puis c'est ça. Alors, est-ce qu'on a tort, nous les plus vieux? Est-ce que les jeunes ont raison? Il y a des jeunes aussi, toutefois, qui sont très nationalistes. Puis j'allais aussi vous dire que c'est au-delà de la politique. C'est pas juste la politique. Je pense qu'il y a tu peux être tout à fait fédéraliste, puis être convaincu que c'est important qu'on parle français puis qu'on le renforce, ce côté-là, au Québec. Donc, voyez-vous, c'est un peu tout ça. On a bien mis la tâche, je pense, pour vous donner la parole. 514-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Allez, Montréal! Allez, Montréal! Allez, Montréal!
Montréal, vous avez des choses à dire. Isabelle vous écoute. Voici Isabelle.
On a Karim avec nous. Bonjour Karim, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on renforce le caractère francophone du Québec? On va essayer de... On semble avoir des petits problèmes ce matin, désolé vraiment. Bon, est-ce qu'on a Karim avec nous?
Oui, vous m'entendez?
Oui, on vous entend bien, allez-y.
Oui, alors personnellement, moi je ne suis pas d'accord parce que je trouve que la loi 101, c'est comme de dire que la langue maternelle des Français et Blancs qui ont colonisé le Québec est plus importante que les langues et des autres que la langue que les résidents et contribuables du Québec voudraient utiliser. Par exemple, si mes impôts servent à financer les écoles anglophones, pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas le droit de fréquenter les écoles anglophones?
OK, donc vous êtes plutôt contre, si je comprends bien, Karim. Là.
Oui, oui. Okay. Oui. Je trouve à la loi 101 un côté raciste parce que ça essaie d'imposer la langue des Québécois de souche.
Vous trouvez que c'est raciste d'imposer le français au Québec? Oui, il va falloir que vous me l'expliquiez, celle-là.
Parce qu'au fond des choses, le français, c'est la langue maternelle des Français qui ont colonisé le Québec. Donc,
mais en quoi c'est raciste? En quoi ça serait raciste?
Parce que c'est la langue des Québécois de souche. C'est la langue maternelle des Québécois de souche.
Mais pas que des Québécois de souche, hein, de ceux qui vivent au Québec aujourd'hui, là, des Canadiens français, aujourd'hui devenus des Québécois. Là, c'est la langue officielle du Québec, là?
Oui, c'est la langue officielle du Québec, mais si quelqu'un d'autre veut... cette loi, elle veut obliger les Québécois à utiliser l'anglais et leur interdire d'utiliser d'autres langues.
OK. Merci. Merci, Karim. C'était tough, ça. C'était difficile. C'était difficile. Là. Imposer le français, ce serait raciste. Là, j'espère que ça ne va pas prendre cette tournure-là, le débat. Mes invités, Christian Dufour et Gilles Laporte, historien, étaient tous les deux d'accord tout à l'heure pour dire que ça allait occuper la place et qu'il y aurait beaucoup, il y aurait certainement, il y aurait l'opinion publique, puis il y aurait les oppositions politiques aussi. J'aimerais vous entendre, Christian, là-dessus, sur l'intervention de Karim, là. Est-ce que ça risque...
Ils sont très, très extrémistes, en fait, mais qui représentent quand même quelque chose. C'est associé un peu à la nouvelle culture woke, qui monte, qui est extrêmement rugueuse, intolérante. C'est clair que dans un Canada où le multiculturalisme est devenu sans limite, de faire la promotion du français, ça peut être présenté comme étant intolérante, comme étant un manque d'ouverture. Là, votre auditeur, en fait, va jusqu'à dire que c'est raciste. Ça me semble extrêmement du délire, en fait. Mais c'est quelque chose qui existe. Ça passera pas comme ça, comme rien. Mais il reste que, je pense que les Québécois francophones se fassent traiter essentiellement comme des blancs colonisateurs qui n'ont pas de légitimité, en fait, à faire la promotion du français. On voit qu'on est rendu ailleurs pour une certaine partie très minoritaire, heureusement, de la population.
Mm-hmm. Gilles Laporte.
Karim a employé l'expression « contribuable » pour désigner les Québécois, ce qui me semble révélateur d'une tendance actuelle. En somme, on se considère comme des clients. Nous attendons des services de l'État, des entreprises, et nous entendons pouvoir être servis dans notre langue. Cette mentalité-là, elle se répand là, avec la pandémie. C'est-à-dire, on consomme à la carte, on veut avoir automatiquement tel que le produit tel qu'on l'attend personnellement. C'est davantage de l'individualisme, en somme, mais voire de l'égoïsme, pour utiliser un autre terme fort. La réalité, c'est que le Québec peut bien renforcer le caractère français, mais il oublie aussi une chose, c'est de se présenter comme une nation.
Ouais.
Et s'il oublie de se présenter comme une nation, on va entendre de plus en plus ce genre de remarques-là, mais pourquoi nous imposer le français? De quel droit? Alors, tout simplement parce que vous êtes, en venant au Québec, vous décidez d'adhérer à un idéal national. Et ça, si on oublie de le rappeler, on va s'attendre de plus en plus à ce qu'ils arrivent dans un espace territorial qui s'appelle le Québec, qui est au sein du Canada, et où les langues doivent être indifférenciées pour se plier aux besoins de l'individu. La loi que va présenter Jean-Louis Barrette demain doit être présenter des règlements, soit, mais elle doit nécessairement aussi rappeler le caractère national de notre langue, parce que sinon, on va se heurter de plus en plus à ce genre d'incompréhension.
Oui, OK. Puis, Karim, je vais vous le dire, là, c'est pas le seul à penser ça. Il y a Elena qui m'écrit, elle dit qu'elle est fille d'immigrants immigrants. Elle parle trois langues. La langue, c'est une richesse. Elle aurait préféré qu'on cesse la guerre des langues, m'écrit-elle. Elle dit on devrait viser le bilinguisme à 100%, autant dans les écoles anglophones que francophones. Sortir du secondaire complètement bilingue, oui, à 100% pour le français, toutefois, en premier dans les commerces. En premier. Mais tu peux demander après... Tu peux dire « hi » après. Elle dit « ça fait notre charme touristique aussi ». Alors voilà, on a Isabelle qui est avec nous. Bonjour, votre opinion par rapport à ce que Simon Jolin-Barrette va présenter comme réforme de la loi 101 demain. Êtes-vous d'accord avec ça, avec un renforcement du fait français, Isabelle?
Oui, je suis totalement d'accord avec le renforcement de la langue française. J'ai marié un Italien anglophone de troisième génération. Donc, ses grands-parents et oncles et tantes sont unilingues italiens, encore aujourd'hui, unilingues italiens, parfaitement fonctionnels dans la société. Mes beaux-parents sont unilingues anglophones. Donc, j'ai énormément de monde qui sont unilingues et fonctionnent très bien. Donc, c'est vraiment difficile, là. Puis, vivre à Montréal, aucun problème depuis des années. Et il y a plusieurs personnes aussi dans ma belle famille qui travaillent en Ontario. Étant donné qu'ils sont bilingues, on voit des primes et des bonus parce qu'ils parlent français-anglais. Mais au Québec, non, tu es obligé de parler anglais-français, mais tu n'as pas de bonus. Mais ailleurs, dans le Canada, si tu parles français, tu as un bonus. Même chose dans l'armée. Ouais. Tu parles français et anglais, tu as un bonus parce que tu es bilingue, mais au Québec, non. Ouais. Donc, c'est juste pour un principe d'équité, puis aussi de diversité. Et avant tout, un français correct, ça serait merveilleux.
Et ce que vous dites, Isabelle, est très juste, c'est-à-dire qu'au Québec, on peut être, et en particulier à Montréal, on peut vivre en anglais seulement, c'est-à-dire complètement unilingue anglophone.
Ah, ben oui.
Et ne pas avoir de problème du tout. Essayez ça pour le plaisir, pour le fun, à Toronto, vous allez avoir de la misère.
Impossible.
Exact. Merci.
Même en tant qu'ancienne militaire, là,
ouais.
de pas parler anglais, là, à l'extérieur du Québec, c'est impossible. On est j'ai des amis, en tout cas, bref, en Ukraine, il fallait attendre les instructions en français pour avoir... on avait tous les cahiers, les livres, les instructions en anglais.
Ah ouais.
Mais pour avoir les instructions en français, il fallait attendre. Ben oui, bravo. Envoyez-nous sur le champ de bataille, pas d'instructions en français. Bravo.
Ouais, merci, Isabelle. Merci bien. Éric, bonjour. Votre opinion là-dessus?
Bonjour, Isabelle. Il y a plusieurs points, là. C'est juste que je vais essayer de faire ça simple. Ce que je trouve, c'est que moi, je suis d'accord avec ça parce que on dirait que la langue française s'en va de plus en plus. Ça arrive dans le commerce, c'est bonjour, hey. Tu sais, je sais que t'aimes pas ça, moi non plus, mais
ouais.
En quelque part, je pense que c'est important d'être servi dans sa langue, là, d'un.
Ouais.
Je l'accepte, ça, c'est correct, mais c'est juste que je trouve que, j'espère que dans sa, comme qu'il disait l'intervenant avant, il disait, faudrait présenter comme une nation. Mais c'est, je pense, c'est d'apporter, le cœur là-dedans, tu sais, faudrait être fier de notre langue, tu sais, parce que je trouve que, moi, à Saint-Jean, je suis comme quasiment gêné de mettre mon drapeau du Québec, parce que si je le mets, je vais me faire comme taguer comme étant un séparatiste, ou je sais pas quoi, puis c'est pourtant la fête du Québec, là, puis ça, c'est comme relié un peu, dans le sens que faudrait être fier de notre langue, puis pour la conserver, c'est commencer par faire attention à faire des fautes d'orthographe sur Internet, je veux dire.
Ouais, exactement. Êtes-vous en train de dire, Éric, aussi, par rapport au drapeau, je trouve ça intéressant ce que vous amenez, parce que vous n'êtes pas le seul à vous sentir comme ça. Est-ce que vous auriez envie de dire que c'est quasiment, il y a tellement eu une appropriation politique, puis je sais que je vais faire sauter mon invité Gilles Laporte, mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu une appropriation politique qui fait qu'aujourd'hui, si tu sors ton drapeau du Québec le 24 juin, c'est parce que t'es un méchant nationaliste séparatiste.
Ben oui, parce que t'en vois plus. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, là, écoute, les fêtes de Québec, il y en avait des drapeaux, là.
Ouais.
Tu sais, même, je pense qu'ils ont même oublié à la fête à la TV, et maintenant, il y en avait même pas. C'est ça. On est quasiment gênés de le sortir. Puis je pense que c'est ça qu'il faudrait faire, c'est de réussir à faire comprendre, parce que c'est l'incompréhension qui fait que le monde s'assemble comme si c'était du racisme de vouloir parler français.
Puis un manque de contexte historique aussi, j'aurais envie de rajouter. Merci beaucoup, Éric. Merci. Gilles, là-dessus.
très juste. Il y a de la place pour une affirmation sereine, ouverte, en somme, transparente de notre fierté nationale. Il y a une belle époque, là, moi-même, en tant que président, ancien président du MNQ, je voyais les fêtes nationales, là, célébrées par l'entreprise privée, Steinberg, Dominion, qui disait « Bonne fête à tous les Québécois
oui. ».
Il y avait une unanimité derrière nos commémorations nationales qui venait du fait qu'elles étaient affirmées de manière sereine, modérée. Aujourd'hui, il y a eu une radicalisation, une appropriation de la question nationale qui a fait en sorte, effectivement, tout à fait d'accord. Moi-même, j'ai mon drapeau du Québec en arrière de chez moi, vous vous en doutez bien. Je suis en plein centre-ville de Montréal. La plupart de mes voisins sont immigrants et on est très, ils sont très sereins avec cette affirmation-là parce que je la fais d'une manière pacifique, simplement parce que notre drapeau y est beau et il célèbre autour de moi ma fierté, ma propre fierté d'appartenir à cette communauté et qui n'a rien de fermé, qui est au contraire un signe d'ouverture. Mmh. Une ouverture, en revanche, qui envoie un message. Ma nation est là. Ma nation, elle existe. Ma nation veut survivre. Ma nation veut traverser le prochain siècle. Joignez-vous à nous et il n'y a pas de raison pour que le français soit moins un atout que l'anglais. Parce que ce qui est en filigrane, c'est de dire la liberté, c'est l'anglais. Mais c'est faux, ça. Dire que l'anglais est une langue qui nous ouvre toutes les portes, c'est peut-être vrai en Amérique du Nord, mais voyager à travers le monde, le français est un passeport en Afrique, au Proche-Orient, en Extrême-Orient, tout autant que l'anglais. Présenter l'anglais comme la liberté et le français comme un phénomène contraignant, c'est une vision complètement biaisée et instrumentalisée de la réalité. Le français est aussi une belle grande langue internationale que nous avons la chance de partager au Québec.
Merci, Gilles. On va s'arrêter ici, très courte pause. On revient tout de suite après ceci. Je vous rappelle que le ministre Simon Jolin-Barrette va exposer demain son nouveau plan pour renforcer le fait français au Québec. L'État québécois va donc décider d'utiliser uniquement le français, sauf exception.
Toujours intéressant, ça.
Uniquement le français, sauf exception, dans ses communications écrites. Il y aura plusieurs choses là, qui vont être proposées demain. J'aimerais qu'on... Comme le fait, puis ça, je trouvais ça intéressant, comme le fait de mettre à disposition de gens, aux gens qui le veulent, bien sûr, l'apprentissage du français gratuit. C'est-à-dire qu'on donnerait des cours de français gratuitement. Ça, j'ai très hâte de voir les détails de cet élément-là, mais c'est sûr que quand on regarde l'utilisation du français au travail au Québec, là, les dernières années nous montrent qu'il y a eu effectivement une baisse importante. Tania Lompré est spécialiste en francisation, entre autres pour les immigrants. Bonjour Tania.
Bonjour Isabelle.
Peux-tu nous parler un peu de l'état de la situation en ce moment?
Bien, en fait, je dirais qu'avec la pandémie, c'est sûr que la situation est un peu particulière parce qu'il y a probablement moins de gens dans les cours de francisation, mais on a bon espoir qu'après la pandémie, la situation va se résorber, qu'il y aura plus de gens qui viendront dans nos cours pour apprendre le français. Mais dans ce que vous disiez, c'est vraiment important pour moi de dire que oui, évidemment, tout le monde devrait avoir accès aux cours de français langue seconde, non seulement les immigrants, mais aussi les anglophones qui sont ici depuis plusieurs générations et qui voudraient améliorer leurs compétences en français. Et ça, pour moi, c'est important que ça change maintenant et que tout le monde qui désire avoir un cours de français puisse l'obtenir.
Oui, parce que quand on regarde l'utilisation du français au travail au Québec, entre autres, beaucoup de gens là qui m'écrivent, entre autres, là-dessus, puis qui me disent, ben moi, si j'avais pas été bilingue, je l'aurais pas, le travail que j'ai, pour pas dire la job.
Les nouveaux arrivants s'en rendent compte de ça. Rapidement, en fait, là, ben, chaque fois que je regarde une offre d'emploi sur Internet, on demande d'être bilingue, alors que moi, je suis en train d'apprendre le français ici, mais que je parle pas anglais. Donc, tu sais, souvent, les gens vont vouloir avoir le même type de cours après la francisation pour apprendre l'anglais, qui est beaucoup moins disponible. Mais je me rends compte rapidement que pour travailler à Montréal ou dans la région métropolitaine, il faut être bilingue et que ces gens-là ne le sont pas nécessairement. Constate là, que sur le marché du travail, il va y avoir une demande pour un niveau d'anglais qu'ils n'ont pas et pour un niveau français qu'ils n'ont pas encore non plus.
Ouais. Au niveau, il y a l'affichage. Toi, tu penses qu'il faut qu'il soit plus sévère avec l'affichage?
Oui, moi, je pense que ça devrait être réglé depuis longtemps, en fait, là, les problématiques d'affichage en français. Mais je pense que j'ai bon espoir que demain, là, on annoncera des choses qui feront en sorte que l'affichage reviendra en français. Mais pour moi, c'est pas assez parce que il faut aller plus loin que le cosmétique. Donc, oui, il faut qu'il soit affiché en français, mais il faut aussi qu'on puisse y travailler en français, y être servi en français partout, en fait. Pas seulement qu'on affiche de façon purement cosmétique. Il faut qu'il y ait comme une suite à l'affichage qui est importante là, d'avoir. Oui.
Et ce qui semble être du contingentement là, imposé aux francophones dans les cégeps anglophones, comment tu vois ça, toi qui es enseignante aussi?
Bien, en fait, pour moi, pour les francophones, on dirait qu'il y a comme. Je comprends que s'ils ont déjà une bonne maîtrise du français, s'ils veulent aller parfaire leurs compétences en anglais, puis passer par le cégep anglophone, je comprends le désir. Par contre, je le comprends mal de ceux qui ne parlent pas déjà français. Donc, je pense que pour ceux français au niveau du cégep, ça permettrait aux jeunes qui sont arrivés au cours de l'adolescence au Québec d'avoir un bon niveau de français en entrant sur le marché du travail. Puis après, s'ils veulent poursuivre l'université en anglais ou faire des cours en anglais, ça va aussi. Mais je pense qu'on devrait avoir un niveau de français suffisant qui serait offert à tous en mettant, par exemple, l'anglais, le français obligatoire. Donc, tout le monde aurait un niveau en sortant
du cégep. Toi, tu dis cégep français obligatoire, c'est ça que tu as dit, pour tout le monde, Tania, c'est ça?
Ben, en fait, pour tout le monde, peut-être pas, mais pour les allophones ou pour les gens qui n'ont pas de maîtrise suffisante du français, je crois qu'on devrait obliger le français.
Ben, les anglophones aussi, tant qu'à y être.
Mais en fait, s'ils ne parlent pas français, ben non. Évidemment, je pense que la communauté anglophone a des droits linguistiques, donc au niveau de l'éducation, de la santé, de la justice, c'est correct. Il faut garder ça aussi. Mais pour les allophones qui ne parlent pas français, je pense que ce serait important. Je ne veux pas non plus créer des catégories, là, je pense, mais de notre côté, je pense que la communauté anglophone a déjà des droits linguistiques qu'il se doit de conserver.
Oui, oui. Mais merci. Évidemment, ça, le cégep, là, je vous le dis, c'est la prochaine grosse chicane. Hein? J'aimerais entendre Christian Dufour là-dessus. Christian, ça sera pas simple sur le cégep. Puis moi, je pense que c'est là où, effectivement, ça risque d'achopper, puis il risque d'y avoir tout sauf consensus, puis il va y avoir beaucoup d'opposition si on en vient à contingenter. En tout cas, sincèrement, d'un point de vue personnel, je regarde ça, puis j'ai toujours haï le fait que les francophones n'aient pas accès à l'école anglophone si, bien sûr, considérant que les anglophones, eux, ont accès à toute école qu'ils choisiraient. Tu comprends? Là, on parle des droits. Si on permet des droits à l'un, ben il faut les permettre à l'autre aussi, n'est-ce pas?
Oui, mais avec ça, ma chère Isabelle, vous contestez l'essentiel de la loi 101. Là. C'est tout même beau, les droits, mais l'esprit de la loi 101, puis je pense que le gouvernement de François Legault va vouloir accentuer ça, c'est de dire la règle. Au Québec, là, c'est que ça se fait en français pour les francophones de souche.
Exact. Et c'est pour ça, oui, t'as raison, mais c'est pour ça que je dis à ce moment-là, le cégep en français aussi pour les anglophones.
Non, je crois que la règle au Québec, c'est que ça se passe en français pour les francophones et les immigrants qui viennent d'ailleurs, les allophones, à l'exception des Anglo-Québécois qui ont un droit historique, comme le dit Tania, à leurs institutions. Il faut pas. Moi, j'en reviens pas à quel point. Vous savez, on avait eu le débat avec Jean-François Lisée là, récemment là-dessus.
Ouais.
Ça, je trouve ça complètement surréaliste de penser qu'on va obliger les Anglo-Québécois à aller au cégep francophone. Ils ont un droit. Alors, c'est en anglais, là. Moi, je défends ça au maximum. Mm-hmm. Je pense que l'enjeu, et c'est pas parce qu'eux ont plus de droits que nous. C'est simplement parce qu'eux, c'est une minorité. Ils peuvent aller, en fait, aux institutions francophones, mais ils ont eu droit à l'enseignement en anglais. Et puis, les francophones n'ont pas ce droit-là, ni les allophones. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Si on conteste ça, on conteste la loi 101. Il n'y a plus de loi 101. Je veux dire, parce que ce qui a marché dans la loi 101, c'est d'obliger, en fait, au niveau primaire et secondaire, l'école en français, sauf pour les Anglo-Québécois, les Anglo-Canadiens aussi qui ont un droit historique. Et là, le débat, est-ce qu'on étend ça au cégep? Mais moi, je trouve qu'il faut être très, très positif là-dessus.
Ouais.
Et je comprends que...
Qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent, beaucoup... Christian, que ça pénalise les francophones?
Ben, pourquoi ça pénalise les francophones? Avec cette mentalité-là, là, c'est fini le Québec, là. Vraiment, il faut être réaliste. Ça pénalise pas les francophones. La langue au Québec, c'est le français et le système public d'enseignement étant français. C'est des parents qui tiennent à tout prix à ce que leurs enfants aillent à l'école anglaise, mais qui payent pour aller à l'école anglaise. C'est pas la collectivité à payer pour ça. Et au cégep, moi, je trouve qu'on devrait imposer la loi 101 au cégep parce qu'il y a eu un glissement qui est un peu dramatique, là. On n'est pas pour se laisser assimiler de même, quand même. Par contre, moi, j'ai peur de l'alarmisme. Moi, le bonjour aille, on en a déjà parlé, Isabelle, là-dessus. Je sais que vous, ça vous tombe sur les nerfs. Moi, ça me dérange pas bien fort dans la mesure où on perd en français. Si dans le centre-ville à Montréal, moi, j'accepte jamais de me faire servir en anglais. Mais quand commence par bonjour, aïe, moi, ça me rend pas malade. Mais je sais qu'il y a même des gens que ça rend malade. Et moi, j'ai peur entre le jovialisme, qui est moins présent, j'en conviens ces temps-ci, puis l'alarmisme, il y a une espèce d'entre-deux. Et l'exercice que fait le gouvernement, c'est un exercice de pouvoir, là. C'est pas juste l'émotion en faveur du français, puis on est frustré. Est-ce qu'ils sont capables, en fait, d'associer le français au pouvoir? Et puis, il y a la nation. J'ai rien contre la nation québécoise, mais il y a la société distincte aussi, qui est plus frette. Mais il y a une société distincte québécoise au sein du Canada. Et une des caractéristiques, c'est qu'une majorité francophone dans cette société distincte-là qui a le droit, en fait, de faire en sorte que le français soit clairement prédominant. Et on n'est pas dans le racisme. Vous savez, le racisme aujourd'hui, là, ça ne veut plus rien dire.
Tout le monde est raciste. Dès qu'il y a un problème, là, il y a une partie militante qui va dire c'est raciste. Faut pas se laisser arrêter parce que je trouve que Simon-Jolin Barrette a besoin de l'appui des Québécois. Cela dit, il va y avoir des débats. Mais moi, je prévois pas que ça va être dramatique. Faut pas que ça soit dramatique.
Penses-tu que les Québécois sont d'accord? T'as pensé qu'ils vont être derrière cette proposition de la CAQ?
Pour les cégeps?
Ben, bon, en fait, tout le projet global, on verra effectivement demain. Là, on est encore dans les hypothèses, les suppositions et les fuites. Mais est-ce que tu penses que d'un point de vue général, l'opinion publique est plutôt en faveur de renforcer l'élément français, le côté francophone du Québec et le fait qu'au Québec, c'est une province qui est d'abord et avant tout en français. Là. C'est pas une province bilingue.
Je pense que l'opinion publique en général est d'accord avec ça. Il y a une fenêtre d'opportunité historique, mais comme on dit, Isabelle, le job est dans les détails. Mm. Vous savez comment c'est la politique du Québec. Là, quand demain, on va connaître les détails de Simon-Jolin Barrette, il y a un tas de gens qui vont dire oui, mais, vous n'allez pas assez loin, vous allez trop loin. C'est la nature du jeu politique. Mais il semble que ça va satisfaire personne, en fait.
Tu penses ça? Oui, c'est bon, ça.
Non, mais ça ne peut pas satisfaire tout le monde. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, le gouvernement semble vraiment vouloir le faire sérieusement. C'est pas cosmétique. Donc, on a tout intérêt à ce que ça soit, si on croit Québec français. Mais il y a des gens pour qui, mais ils sont très minoritaires.
Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'importance
de Québec français, puis on s'en fout.
Il y en a beaucoup qui m'écrivent.
Mais c'est pas la majorité. Il ne faut pas attacher trop d'importance à ces gens-là, Isabelle, parce que sinon, ça pollue le débat public. Il y a des gens dénaturés. Il y a des enfants qui n'aiment pas leur mère, qui n'aiment pas leur père.
Christian, c'est plus profond. Il y a des gens qui sont convaincus qu'aujourd'hui, si tu veux passer à travers avec la mondialisation, avec tout ce qui nous entoure, on n'a pas le choix. L'économie est importante, l'éducation des enfants. Beaucoup de parents m'écrivent.
Il y a toujours des gens soumis, conformistes, qui vont toujours se mettre à genoux devant les plus forts. Mais c'est du gros charriage pour une bonne part. Un élément qui va être important, là, il faut arrêter d'exiger l'anglais dans le monde du travail quand c'est pas nécessaire. Parce que c'est cette mentalité-là que vous décrivez. Ah, tout se passe en anglais dans le monde. C'est pas vrai que tout se passe. Je nie pas l'importance de l'anglais, là, en Amérique du Nord. Mais le monde est compliqué, puis de dire tout se passe en anglais. À un moment donné, on est en face du côté très colonisé des Québécois. Vous vous souvenez, moi, j'avais écrit un livre, on avait débattu là-dessus, Le retour du mouton. Le fameux mouton, là, qui disait « Je suis bilingual ». Il était tout fier de ça. Ben, c'est un des problèmes. Il y a une partie des francophones, il faut là, qu'ils soient un peu moins colonisés, puis un peu moins moutons. Et moi, je pense pas que c'est la majorité, mais je crois que c'est une partie du problème. C'est pas juste les immigrants, puis c'est pas juste les Anglais. C'est les francophones.
Ben, ça part de nous, c'est sûr. On va s'arrêter ici, on revient tout de suite après. Et j'ai Claude qui m'écrit, puis c'est un bon point, je trouve, ce qu'il amène. Il dit, à chaque point de presse du gouvernement Legault, faut toujours qu'il parle en partie en anglais. Ils font pas ça en Ontario, en Alberta ou dans une autre province avec le français. Pourquoi est-ce qu'on veut accentuer le français alors que finalement, même notre gouvernement n'utilise pas que le français? Je crois que c'est intéressant comme remarque, Gilles Laporte.
Demain, il va annoncer que ça concerne beaucoup de ministères, là, les changements qui sont annoncés, y compris le ministère des Communications avec les citoyens. Alors, une loi pareille mobilise à peu près 15 projets de loi différents. Ça va être un gros remue-ménage dans l'administration publique. Et vous posiez la question tantôt, quel va être l'appui des Québécois à la loi de demain? La réponse est déjà écrite. Ça va être Montréal contre le reste. Demain, on va assister à la tentative du Québec de refranciser Montréal. On va probablement assister à l'émergence d'une rupture entre ce que pense Montréal et ce que pense le reste du Québec à propos du caractère français du Québec.
Mais c'est vrai que notre conversation, là, s'il y a des gens qui nous écoutent en Gaspésie, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, ou à Val-d'Or, ils disent, voyons, de quoi qu'ils parlent, les Montréalais? On se parle en français, nous autres, on n'a pas de problème.
Le champ de bataille de cette loi-là de demain, ça va être Montréal. Autant à propos des cégeps, de la langue d'affichage, de la langue des commerces, tout cela va concerner d'abord et avant tout Montréal. C'est l'élément l'éléphant dans la pièce, comme on dirait.
Ouais.
Mais heureusement pour le gouvernement, et ça, c'est un excellent choix stratégique, c'est que le débat va d'abord se transporter sur la scène fédérale, parce qu'on est à la toute veille d'une campagne fédérale, et il y a bon nombre de dispositions, notamment, par exemple, la francisation des entreprises fédérales, ou l'ouverture à l'immigration internationale, qui vont concerner des décisions de fédérales. Je pense que M. Legault n'est pas mécontent que ce soit d'abord Justin Trudeau qui ait à se dépêtrer avec le consensus québécois à propos de notre caractère français.
Oui, oui, oui. On pourrait penser comme ça que c'est même bien fait, hein? C'est comme d'un bon addon, comme on dit. Merci beaucoup, Gilles Laporte, historien. Tania Lompré, rapidement là-dessus, en conclusion.
Oui, bien, en fait, je trouve que M. Laporte a raison. Par contre, il faut sortir aussi de Montréal, hein, parce qu'on se rend compte que la périphérie, puis le Grand Montréal aussi, là, est de plus en plus concerné par les débats linguistiques. Je pense à Laval, par exemple, ou à la Rive-Sud. Donc,
oui, quand on parle de Montréal, c'est la grande région de Montréal. C'est pas
juste. Puis c'est ça, fait que le débat, c'est oui, Montréal, mais aussi les régions qui l'entourent, puis les gens qui l'habitent, évidemment. Puis il ne faut pas oublier que la majorité des nouveaux arrivants qui s'installent au Québec s'installent à Montréal ou en périphérie très proche. Donc le débat aussi concernant les allophones doit se passer aussi en périphérie de Montréal et sur l'île de Montréal, qui sont des débats, en fait, qu'on entend moins en région.
Merci, Tania Lompré. Je rappelle que Tania est l'auteur de Québec cherche québécois. Elle est enseignante en francisation. 30 secondes à peine, cher Christian Dufour. Je donne le mot de la fin, Christian.
Ça va nous changer de la pandémie.
Exact.
Ça va nous faire de bien, du bien.
C'est quoi, Christian? Moi, je suis contente pour ça. C'est ce que je disais aux auditeurs. Moi, j'aime ça parler du français. Je trouve que c'est un beau sujet. Et plus on en parle, mieux on se porte. Ça peut peut-être allumer les consciences. Merci beaucoup.
On ne ratera pas cette opportunité-là parce que c'est quand même important.
Voilà. Christian Dufour, politicologue. On s'arrête ici. Restez là, tout le monde. On va parler de l'état de santé des hommes après les nouvelles.